Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toute cette semaine dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, c'est l'été de Lydie, in memoriam. Les Pieds sur Terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Qu'il faut bien rire. Hein.
Alors, il faut quand même savoir un truc. J'ai vécu une expérience assez incroyable parce que le premier jour où je suis allée en radiothérapie faire mes essais, j'ai quand même réussi à avoir le sein d'une femme qui avait été radiothérapiée pour pouvoir voir ce que ça donnait.
Mais comment t'as fait? C'est dans la salle d'attente, c'est ça?
Parce que j'ai commencé à blaguer dans la salle d'attente avec les perruques, les trucs, les machins, etc.
Donc t'as fait un atelier parole dans la salle d'attente?
Exactement. Et j'ai réussi donc à faire rire cette femme qui était avec sa jeune fille de 20 ans, qui a fini par me montrer son sein quand même dans la salle d'attente, ce qui se fait jamais. Ça, c'était très, très drôle. J'ai dit ça là. Chef, elle m'a dit, mais comment on a osé vous montrer ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ne se parlent pas. C'est un truc terrible, il n'y a absolument pas de communication. Les gens viennent faire les traitements, ils ont chacun une radiothérapie pour des endroits totalement différents, donc ça ne se voit pas. Tu peux être dans une salle, bon, à part nous, ceux du cerveau, où on perd nos cheveux, les autres, ils perdent, si, sur ton sein, c'est pas très grave si tu perds tes poils des seins. Normalement, tu n'as pas trop de poils au sein. Tu peux même avoir un couple, il y avait un couple qui était là, tu savais pas si c'était la femme ou l'homme. Ben, c'est pas que je me posais la question, mais moi je peux pas m'empêcher, il faut que je vive, il faut que je... Alors elle, évidemment, elle m'a fait paniquer quand elle m'a montré son sein, il était très esquinté. Mais effectivement, après, l'infirmière en chef m'a dit, mais un sein, la peau d'un sein n'est pas la même peau que la peau d'un crâne. En même temps, un sein, on peut le cacher, un crâne, on peut pas le cacher.
Lydie et Marie, Marie et Lydie, l'histoire se passe au cours d'un été, l'été dernier, l'été de Lydie, pendant les 6 semaines que dure la radiothérapie de Lydie, atteinte d'une maladie encore mal connue mais supposée incurable. Marie Desplechin et Lydie Violet ont écrit ensemble « La vie sauve », un petit livre sur la maladie de Lydie. Elles ont poursuivi ensemble, dans les pieds sur terre, leur écriture commune, leur rigolade, leur bataille et la volonté de dire quelque chose de ce monde-là, la maladie, qui ne soit pas pathétique, ni clinique, ni condescendant, ni trop accablant. C'était l'été de Lydie, diffusé pour la première fois en 2014, de janvier à avril, que je vous propose d'écouter ou de réécouter toute cette semaine. Voici tout de même, avant l'écoute de ce premier épisode, ce qu'a écrit Marie il y a quelques jours et ce qu'elle m'a demandé de vous lire en préambule à l'écoute de cette série. Lydie, dit-elle, dont vous allez entendre la voix, est partie au bord du soir, il y a un an, le 23 juillet dernier, en plein été. L'année avait été dure, le courage ne payait plus, elle a lâché l'affaire. Elle, à qui les médecins avaient donné une espérance de vie de 8 ans, n'aura finalement cédé qu'au bout de 14. 14 années qu'elle a eu le génie irrésistible de remplir d'une vie pleine, amicale, amoureuse, créative et ensoleillée. Dans le feuilleton que vous allez écouter, écrit Marie, ou réécouter, on entend ses amis, ses soignants, et elle d'abord, ses protestations, ses fatigues, son rire, et cette sagesse qu'elle s'est construite au fil des années, et qui aura été, pour ceux qui l'entouraient, une leçon extraordinaire de tenue et de vie. Après son livre « La vie sauve » qui avait mérité un prix Médicis en 2006, la fabrication de ce nouveau chapitre radiophonique de l'histoire de Lydie, l'été de Lydie, aura été un moyen formidable de tenir l'épreuve à distance, d'élaborer ce qui était en train de se passer, de mettre en pratique la solidarité de l'amitié. Une nouvelle petite bande s'est créée autour de Lydie, celle de la radio, avec toutes celles qui la font, qui chacune ont pris leur part de l'aventure commune des amis de Lydie. Elle s'est étendue à vous, auditeurs, amis, qui avez découvert en elle une part de vous-même, la part solaire et combattante. Il faut être l'ami du présent qui passe, comme l'écrit Clément Rosset, Le futur et le passé nous seront donnés par surcroît. C'est dans cet esprit qu'il faut écouter Lydie, pour la puissance avec laquelle elle a su vivre au présent. Lydie, notre héroïne de fiction préférée. Fin de citation et bonne écoute à tous sur France Culture.
Alors, vous voulez qu'on parle de quoi, cher ami? Parce que là, je suis un peu perturbée. Je suis dans ma paperasse où je ne sais pas ranger toutes ces merdes.
Je me souviens très bien de ma rencontre avec Lydie. C'était au téléphone en 1998, au début de l'été.
Tout ça, c'est encore des papiers.
Elle m'appelait pour me dire qu'elle venait de lire le roman que j'avais écrit. Je m'en souviens parce que j'ai tout de suite aimé sa voix et les mots qu'elle employait.
Attends, c'est quoi ce dossier? Certificat médical.
Lydie était mon attachée de presse et j'étais l'une de ses auteurs. J'ai eu immédiatement une confiance totale dans cette personne, dans sa voix, dans sa manière de dire les choses, qui était une manière amicale et sans affectation. L'automne est arrivé, le livre est sorti, et nous avons passé presque 4 mois à nous voir sans arrêt. Le roman s'appelait « Sans moi », et à la surprise générale, il a fait un petit succès, ce qui veut dire que nous sommes allés des missions en salon, que nous avons pris des trains et des avions, que nous avons partagé des repas et des hôtels. Le livre a figuré sur toutes les listes de prix et n'en a reçu aucun, mais il s'est bien vendu. Et nous, avons bien rigolé, vraiment bien rigolé.
Ça, est-ce que tu reprendras un petit café?
Ouais, volontiers. Ensuite, elle a changé de maison d'édition. Nous avons continué à nous voir de temps en temps et je l'aimais toujours beaucoup. Je suis allée à son mariage, j'ai rencontré ses enfants, son fils Simon, sa fille Kim. 3 ans ont passé. Et puis elle est tombée malade.
Alors moi j'ai une tumeur assez compliquée, mais qui est située en zone temporale, frontale et insula.
J'ai été prévenue par un ami qu'elle était à l'hôpital et qu'elle allait mourir. Mais elle est sortie et elle est rentrée chez elle. Elle était toujours très malade, mais la mort était différée. La tumeur qui avait atteint son cerveau était à évolution lente, c'est-à-dire qu'elle n'était pas condamnée dans les mois à venir, mais à une échéance de 8 ans, 8 ans en moyenne.
Alors, bah les boucles d'oreilles, ça c'est déjà fini, je peux plus en mettre. J'ai dissous ma carte d'invalide. Voilà, bah ça je lui laisse.
Ça fait combien de temps que ta maladie est déclarée?
Ça fait 12 ans.
Nous nous sommes revus, pas tout de suite, mais 2 ou 3 mois plus tard. Nous avons dîné ensemble dans un restaurant du 13e arrondissement de Paris, et c'était une chose extraordinaire de la retrouver. Rien n'avait changé, et croyez-le si vous voulez. Nous avons vraiment bien rigolé.
Non, ce que je voulais savoir, c'est par rapport aux histoires d'assurance. Parce que j'ai mis aussi ton numéro de téléphone. Parce que maintenant, je suis comme les vieux. Donc, j'ai une assurance qui permet de venir me secourir s'il n'y a personne. Je vais récupérer aujourd'hui un bracelet qui me permettra d'être en communication avec des urgences, même si j'arrive pas bien à parler. Et eux, ils se débrouilleront. Donc ça, on va voir ça. Ça, c'est ton café, non?
Ouais.
Donc je me suis dit, ça y est, j'ai déjà changé de catégorie. Je suis dans la catégorie petite vieille. Une bête petite vieille de 50 balais.
C'est au cours de ce dîner que je lui ai proposé d'écrire un livre avec elle, à cause de sa voix et des mots qu'elle utilisait, et de cette façon si particulière qu'elle avait d'appréhender son existence en danger mortel. Une façon colérique et dépouillée d'apitoiement. J'étais certaine aussi de la voir souvent, puisque nous aurions un projet ensemble, un vrai projet de fabrication, qui nous obligerait à nous donner des rendez-vous et à nous y tenir. Et puis un projet de livre, c'était cohérent. Elle travaillait dedans depuis qu'elle avait 19 ans. Toujours plus cohérent qu'un projet de céramique ou de peinture sur soie. Je suis allée chez elle à Gentilly pendant toute une année et nous avons essentiellement bu des cafés et fumé des cigarettes dans sa cuisine. Parfois, j'ai fait la sieste sur le canapé de son salon. Mais, au bout d'un an, nous avions un livre. Un petit livre bien serré qui ressemblait à sa voix et à sa manière si particulière d'appréhender son existence.
Taxi, Alpha Taxi. Pour quelle heure j'ai dit, Marie?
T'as dit que tu l'appelais à midi, on doit être là-bas à 1h15, c'est ça?
Alors, nous devons y être à 13h15. Je suis tellement fatiguée.
Olivier Cohen l'a publié au Seuil. Le Seuil a été un peu la seconde maison de Lydie. Elle avait 19 ans quand elle y est entrée.
Oui, bonjour, je voudrais un taxi conventionné, s'il vous plaît, pour aller à l'hôpital de la Salpêtrière. Est-ce que ça pourrait être pour une midi et demi?
Le livre s'appelle La vie sauve, c'est Olivier qui a trouvé le titre.
D'accord, à tout à l'heure.
Le livre a connu un petit succès et nous avons repris le train, nous avons repartagé des repas au restaurant et des hôtels, nous avons re-signé dans des salons, nous sommes re-allés à la télé, c'était incroyable de tout recommencer. Sauf que cette fois, elle était plutôt l'auteur et j'étais plutôt l'attachée de presse et c'est elle qui avait les chocottes avant de passer devant la caméra. Tout le temps de l'écriture du livre, Lydie a refusé les traitements. Elle confrontait les avis des médecins, elle voulait décider parce que c'était de sa vie et de sa mort à elle dont on parlait et personne ne parlerait à sa place. La radiothérapie, elle ne voulait pas en entendre parler et pour la chimiothérapie, elle attendait de voir. Elle a vu.
On est au mois d'avril, fin avril, bientôt début mai.
Et aujourd'hui, c'est ton deuxième jour. Hein. T'es allé aux essais vendredi, là, on est mardi. Et donc, c'est ton deuxième jour, de deuxième expérience de chimio où je t'accompagne.
Alors, Marie...
Non, pas de chimio, voilà, pardon, de radiothérapie.
Déjà, Marie, tu te trompes, parce que la chimio, j'en ai déjà fait 37, donc j'étais super costaud. Et là, effectivement, c'est mon deuxième jour de radiothérapie. Et en fait, bon, l'avantage de la radiothérapie, c'est quand même qu'on sent rien, ça fait absolument pas mal. C'est plutôt après les effets secondaires qui sont plus terribles sur un cerveau, évidemment, que sur une autre partie du corps.
Ce traitement en radiothérapie, c'est un nouveau service?
Oui, c'est un nouveau service, en sachant évidemment que le professeur Delattre suit quand même tous ces malades de très près et est au courant, c'est lui qui prend les décisions et qui les propose. On n'est pas obligé de dire oui. Puisque moi, il y a 12 ans, on m'avait déjà proposé la radiothérapie et je l'avais refusée. J'avais choisi seulement la chimiothérapie. Je pense que c'est une bonne chose que j'avais faite à l'époque. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun choix, que l'époque a évolué. Les choses ont beaucoup évolué dans cet hôpital.
C'est-à-dire que tu as eu raison de refuser la radiothérapie à 10 ans parce qu'elle était plus destructrice?
Elle est violente et très invasive, toujours, sur le cerveau. Mais ils ont réussi, à améliorer les machines. Je suppose que c'est des machines qui sont améliorées et qui donc font un effet de manière moins violente qu'avant. Il faudrait pouvoir regarder des radiothérapies d'il y a 12 ans où on voyait vraiment que la personne avait été irradiée de partout. Et aujourd'hui, apparemment, c'est pas le cas. On le voit pas.
La sortie du livre a coïncidé avec le début de sa première chimiothérapie. Des chimiothérapies, il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi un divorce, des quantités de lettres de lecteurs, un enfant qui est tombé malade, une édition de poche avec des préfaces, il y a eu des vacances, il y a eu des histoires d'amour, une quantité de dîners avec des amis, des déménagements et des complications extraordinaires avec les banques et avec la sécurité sociale. Et 6 ans ont encore passé.
Les pieds sur terre, quartier d'été.
Dans ta manière de te comporter vis-à-vis des médecins et des hôpitaux, c'est toujours toi qui, d'une certaine manière, a choisi ce que tu pouvais faire. C'est-à-dire que tu as toujours été en lutte pour garder ton pouvoir de décision.
C'est-à-dire le jour où on t'annonce que ta maladie, on ne peut pas la guérir et que tu en mourras, je pense qu'à ce moment-là, on prend conscience que ces choix personnels, même si ce sont des erreurs, c'est à nous de les prendre. Donc c'est vrai que j'ai toujours été en lutte pour certains choix. Même là, quand le professeur Delattre m'a annoncé les nouvelles, j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Il m'a donné uniquement 2 jours. Je n'ai pas pris 2 jours. Il a fallu que je parle avec l'infirmière en chef et j'ai donné mon accord dans l'heure. Mais c'est quelque chose, je pense qu'on a besoin aussi de réfléchir à ce qu'on va vivre, à l'accepter, on a besoin d'un peu de temps. Je crois qu'on est comme ça quand on pense pas au futur. Les gens pensent beaucoup au futur, à la construction, à ce qu'ils vont faire, comment ils vont l'organiser. Moi, j'ai fait des choses quand même en pensant au futur, c'est-à-dire j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de faire des choses pour mes enfants, pour... mes amis. Mais ça reste toujours dans une dimension assez courte.
La 8e année approchait, quand la fille de Lydie lui a reproché de n'avoir jamais tenu une promesse ancienne. Tu avais dit qu'on irait vivre au soleil près de la mer et que j'aurais un cheval. Le soir même, Lydie a cherché sur Internet, trouvé une ville et un lycée, au soleil, près de la mer. 2 mois plus tard, elles étaient parties et Lydie avait distribué sa vie entre le Paris de l'hôpital et la ville du soleil. Elle s'est fait des amis partout, il y a eu des histoires d'amour, des problèmes avec la sécurité sociale et elle a appris l'espagnol. 8 ans ont passé, 9 ans, 10 ans, 11 ans.
J'ai des clés qui ne marchent pas, évidemment. Ça y est, ça marche.
J'étais à Lyon dans une chambre d'hôtel quand elle m'a appelée. Je me souviens de sa voix parce que c'était la première fois que je l'entendais pleurer au téléphone. Elle sortait de chez le radiologue, la tumeur était repartie et elle était agressive.
On dirait quand même pas qu'on est en été, hein. Enfin, qu'on est au printemps, quoi. Ça fait pas très printemps, tout ça.
Dans la salle pétrière. Je vous donne mes papiers tout de suite.
Ouais, c'est bien.
Il fallait suivre une nouvelle chimiothérapie très lourde. La chimiothérapie n'a pas réussi à calmer les tumeurs très longtemps, ça ne marchait plus. Il restait la radiothérapie, celle dont elle ne voulait à aucun prix il y a 12 ans. Mais cette fois, elle n'a pas eu le choix.
Allô ? Allô ? Oui, salut mon petit cœur, comment ça va ? Non, je suis dans le taxi, je pars à l'hôpital là, mon cœur. Ça va, ça s'est bien passé ton examen ce matin ?
Le samedi après-midi du premier enregistrement précède de peu le début du traitement.
Bon bah demain mon cœur.
Lydie sort de l'hôpital après une crise d'épilepsie exceptionnellement forte. Sa voix est fatiguée. Il y a plusieurs voix de Lydie, parmi lesquelles celle-ci.
Ah oui, non, en ce moment je pense pas à ça, Maryse. J'ai besoin d'un gros câlin là, en ce moment, mais j'ai personne en magasin pour ça.
Mais aussi celle-ci.
J'ai attrapé des conneries à l'hôpital, je suis en colère après l'hôpital.
Quand on l'appelle, il n'est pas nécessaire de lui demander comment elle va, on le sait aux premières syllabes, c'est le diagnostic téléphonique.
Ce que j'ai trouvé totalement passionnant hier, en discutant avec ma fille, après 3 jours d'hospitalisation, une journée aux urgences totales, enfin toute la nuit, et après j'ai pu retourner dans mon hôpital, c'est après discuter avec ma fille qui m'a expliqué dans quel état j'étais et comment je disais les choses, puisque elle me connaît, donc elle pouvait traduire, ma faiblesse était telle que j'étais incapable de dire les choses, mais elle les comprenait. Et ça, c'est drôle à mourir. Il faut se dire que ce qui est très intéressant quand même dans toutes ces situations dramatique que j'ai pu vivre, j'en ai vécu pas mal. Après, on arrive toujours à en rire avec les amis, je crois que c'est ça qui sauve quelque part, qui aide à remonter, à repartir, même si on n'en a pas toujours envie. Mais ça aide. Je crois que ça aide parce qu'on se rend compte que c'est dément, une petite voix, que je suis plutôt quelqu'un qui gueule. Je sais la chose qui a le plus impressionné mes enfants là, c'est qu'ils m'entendaient plus crier. J'avais plus la capacité pendant 3 jours de crier. J'étais incapable. Donc ça, c'était plus leur mère. C'est vrai que je suis une râleuse furieuse, mais que j'aime qu'on me respecte. Et c'est vrai que par rapport à l'hôpital, j'ai toujours ce problème de ma dignité, que je n'ai pas envie qu'on me déshabille. Je vois pas pourquoi on me déshabillerait pour regarder un cerveau. C'est ridicule. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont ridicules, qu'on fait par systématisme. Et je pense qu'on doit respecter la dignité des gens. Et ça, c'est très important. Mais nous, on n'a plus toujours la force de le dire. Et ça, c'est bien quand il y a quelqu'un qui est là pour dire « Mais non, c'est ça qu'elle ne veut pas, c'est ça qu'elle ne veut pas. »
Et les petits genoux ? Les nez, les jeunes ?
Là, on est juste en face de l'entrée générale de la Pitié. Et sinon, tu disais que tu te sentais fatiguée.
Ouais, là, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. C'est fou. Mais c'est pas grave, ça va passer. Il faut que je boive, là.
Et dans la première chimio et au début des traitements, après l'annonce de ta maladie, est-ce que tu penses que tu as fait des choses qui te permettaient de garder tes neurones en état et qui entretenaient l'activité intellectuelle ?
Oui, je pense que ce que je me suis intéressée à d'autres choses que je faisais, puisque j'ai quand même perdu mon travail, mais j'ai mis du temps. C'est pas des choses qui se font en 5 minutes, tu peux pas. J'ai eu des mois où j'étais rien, j'étais plus personne. J'ai vraiment du mal à remonter la pente. Mais après, je pense qu'on remonte la pente, on s'ouvre à d'autres univers. Moi, par exemple, une chose qui a été super importante pour moi, même si j'en ai pas la connaissance, c'est l'art contemporain. Ça me passionne. J'ai toujours envie de voir des nouvelles expositions. Je dis pas que je vais forcément comprendre, mais je vais ressentir des choses. Ça va me bouleverser, ça va m'animer, ça va me... J'ai l'impression que ça me rend vivante.
Mais t'as appris une langue aussi.
Ah oui, j'ai appris l'espagnol, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'était vital parce que c'était l'année où je devais mourir. Donc, il fallait absolument que je trouve une porte de sortie pour échapper à tout ça.
Et ça, je peux te le mettre en ligne rapido, ça peut être marrant. Hein. Ça peut être marrant.
Les amis de Lydie sont nombreux et à géométrie variable.
En fait, adopte ta passion au point com, c'est un portail d'entrée.
Pendant 15 ans, j'en ai rencontré pas mal, des anciens et des nouveaux. J'en ai vu arriver et repartir et d'autres qui sont restés.
Ça. Après, tu peux avoir le TripAdvisor des chambres. Ouais. Tu vois, genre, si vous êtes en cancéro à la Salpe, demandez la chambre de 110.
Sur les enregistrements, on retrouve Marie-Séverine et Julien, Raphaël et moi, qui avions plus de temps que d'autres d'aller à l'hôpital.
Mais les services, il ne faut pas les faire pipi. Parce
que on entend aussi Jean-François, dit Sherman, et Olivier, dit Grana, qui sont médecins et un peu plus.
Voilà comment naissent les bonnes idées.
Et après, tu fais un tumbleur.
Mais c'est un peu ce qu'il a fait.
Un tumbleur sur le truc. Je te dis, c'est un portail global. Tu vois, c'est un truc global.
Ah non, mais ça, avec toi, on peut se marrer à l'auto. Hein. Ça, je pense qu'on peut faire des visites super rigolotes, quoi.
Là, je crève de faim. Tu crois que... Ah voilà, un peu d'eau, tiens.
Tu veux qu'on aille voir Billy ?
Billy.
La fille de Jean-François ?
Ah bah oui, j'aimerais bien aller voir Billy, moi. C'est dans combien de temps à l'avance, Billy ? 15 jours ?
15
jours. C'est parfait. Oh, il est trop beau. Oh, c'est beau, un bébé, quand même.
Bah écoute, Lydie, voilà, je te présente la petite Billy et Léonore.
Très voilà. Très fière de voir cette petite.
Notre petite merveille.
Mais t'arrêtes avec ton flash!
Pourquoi il s'est remis?
Regarde, elle a bougé. Elle a bougé.
C'est normal
qu'elle fasse bruit là? Bah oui, mais bon. Faire un plan du genre, je vais vous filer vos mes radiations et elle va avoir un bébé de 3 jours sans se poser la question de savoir si
non,
tu vas lui filer
des radiations. C'est des radiations qui vont que dans mon cerveau, ça c'est sûr.
Tout à l'heure, tu nous as dit, je vous file pas des trucs là.
Je me souviens que ma fille, elle a eu des radiations, là on pouvait les attraper. Mais là, non. On fait trop.
Donc là, on est dans la maternité de la pitié.
Oui, il se passe plein de choses dans cet hôpital, mon Dieu. Vivaya avec son beau bébé, oh, c'est trop beau, un beau bébé.
Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure sur les couleurs des radiations ?
Ah oui, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, les radiations, en fait, elles sont vertes. Moi, je les vois vertes quand elles ne sont pas radioactives, quand j'ai fait les tests. Et quand c'est les vraies radiations, elles sont bleues. Mais alors le truc quand même génial, ça t'auto-détruit tout, mais ça ne te fait pas de mal.
Nous sommes souvent demandés, de plus en plus souvent avec les années, quelle était la source de notre attachement pour Lydie. Il y avait ses qualités, ce qu'on peut appeler son courage ou sa fantaisie. Mais il y avait autre chose, une raison plus profonde. Une fonction de Lydie qui est de nous apprendre quelque chose de l'existence. J'ai souvent dit à Lydie qu'elle était mon héroïne de fiction préférée, et c'est toujours vrai.
Tous les gens qui m'envoient des petits messages, qui essayent de m'appeler, qui prennent des nouvelles,
et que j'arrive pas à rappeler parce que j'ai que des mauvaises nouvelles à annoncer et que t'as pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles parce que tu as peur de faire de la peine aussi, de peiner, de mettre, tu vois, de sortir le poids dans la communication avec la personne, que tu lui fais du mal, enfin que tu la fais souffrir par ta propre souffrance, et j'ai pas du tout envie de ça. Donc c'est très long et très difficile et j'arrive pas. Tu te dis j'appelle pas, il s'inquiète, il se dit c'est forcément qu'elle va pas bien, mais voilà, raconter toutes les choses qui sont si difficiles à vivre à passer, t'as pas forcément envie de le faire par téléphone et dire que tout part d'un bon sentiment, mais ces bons sentiments finalement deviennent pour moi un poids en plus. D'ailleurs, c'est aussi des questions que je me pose sur mon entourage, qui est ce que j'appelle, tu vois, ma force d'attaque, c'est-à-dire vous. Je me pose pas que des questions sur moi, je me pose des questions sur l'influence de ce que je vis sur les gens que j'aime et qui m'aiment très profondément.
Franchement, je sais pas quoi te répondre, pose-toi les questions, moi je m'en pose pas, si tu veux.
J'étais super, il y a eu un moment, il y a des moments, mais d'émotions tellement fortes dans ce lieu, mais c'est incroyable l'émotion. Ça fait 2 jours que je croise un homme, donc qui vient en radiothérapie, un bel homme, tu vois, vraiment un homme, mais tu vois qu'il est bouleversé, qu'il n'est plus personne. Et à chaque fois qu'il m'a vu, il m'a fait un sourire, on s'est croisé plusieurs fois, il m'a fait un sourire. Et hier, quand je suis arrivée, il y avait une femme qui l'accompagnait et il était vraiment mal et il m'avait fait quand même son magnifique sourire irrésistible. J'ai discuté après, pendant qu'il était en radiothérapie, avec sa sœur qui l'accompagnait. Et c'est là que je me rends compte, c'est vrai que les accompagnants peuvent être complètement perdus quand ça tombe dessus, tu sais pas, cet homme avait tout, c'est très étonnant. Et alors j'ai remarqué aussi une autre chose, j'ai fait un autre constat qui est super étonnant, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux dans cette épreuve, c'est les croyants. Les croyants, ils ont toujours le sourire, ils sont dans un... Je pense que la croyance aide énormément.
Ils te le disent qu'ils sont croyants ?
Oui. Oui, les gens te parlent tout de suite de leur prière, de comment ça les aide, tout de suite, oui. C'est tout de suite. Alors ça, je ne l'avais pas avant. C'est quelque chose que je ne vivais pas avant parce que ça ne se voyait pas physiquement. Maintenant que ça se voit physiquement, les gens, tout de suite, sont dans un rapport très, très différent. Mais c'est assez surprenant parce que ça va de tous les milieux, toutes les religions.
On peut aller faire des prières avec Raphaël et Lapin. Lapin aussi.
Ben, moi, j'ai toutes les communautés musulmanes, chrétiennes et juives. Il manque les hindouistes.
On va te trouver ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'été de Lydie, un reportage de Marie Desplechin et Lydie Violet, réalisé par Annabelle Brouard, au mixage Bernard Laniel. Et à la rediff, Benjamin U. Dans quelques instants, sur France Culture, restez avec nous, Culture Musique.